VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Somalie, patrouille de soldats lourdement armés. Écoles et magasins fermés, routes bloquées. La capitale somalienne est paralysée ce mardi à la veille d'une élection présidentielle déjà maintes fois retardée. Les autorités souhaitent à tout prix éviter une attaque des islamistes Chebab. Sécurité oblige, c'est dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus choisiront le chef de l'État parmi 22 candidats lors d'un scrutin à plusieurs tours qui marquera la fin d'un processus entaché de nombreuses accusations de corruption et trucage. Prévue en août, l'élection du président a été plusieurs fois repoussée. Elle doit clore un processus électoral entamé en 2016. Le suffrage universel avait été initialement promis aux Somaliens, mais cet engagement a été abandonné en 2015 en raison de luttes intestines et de tergiversations politiques combinées à une insécurité chronique due principalement aux islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda, qui contrôlent de larges zones rurales et frappent régulièrement Mogadiscio. L'instauration du suffrage universel est désormais planifiée pour 2020. L'issue du scrutin de mercredi reste incertaine, tant il est probable que les différents clans ajustent leur stratégie au fil des tours de vote. Quelques candidats se détachent toutefois, dont l'actuel président Hassan Cheikh Mohamud. Son prédécesseur à la présidence Sharif Cheikh Ahmed est lui aussi candidat. En Côte d'Ivoire, panique dans la ville d'Adiaké, située dans le sud-est du pays, vers la frontière ghanéenne. Des militaires armés, membres des forces spéciales, ont tiré en l'air pendant des heures. Pour l'heure, aucune réaction du ministère ivoirien de la Défense sur le mouvement d'humeur de ces soldats mécontents. La lutte contre l'insécurité dans le Sahel maintenant. Lors du sommet du G5 Sahel lundi à Bamako, les présidents du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad ont convenu de créer une force militaire conjointe anti-terrorisme. Cette force est constituée pour combattre les groupes djihadistes qui se servent notamment du Mali comme base de repli, déclarent les participants au sommet. Baptisée force conjointe du G5 Sahel, cette force vise à lutter contre les djihadistes, mais le sommet de Bamako n'a précisé ni les effectifs, ni le commandement, ni le mode de fonctionnement. Le Nigérien Mahamadou Issoufou a indiqué qu'ils vont demander une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour appuyer sa création. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient déjà convenu le 24 janvier à Niamey la mise en place d'une force de sécurisation du Liptako-Gourma, une région à cheval sur les trois pays. Un communiqué précise que cette force de sécurisation du Liptako-Gourma sera la principale composante de la future force conjointe. Rappelons que le 18 janvier, un attentat suicide a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali. Cette localité est également un lieu de départ d'attaques contre d'autres pays, ont affirmé dans un document les 5 chefs d'État participants au sommet de Bamako. Et puis, inquiétude au Nigeria concernant l'état de santé du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien a retardé son retour de vacances au Royaume-Uni pour raisons médicales. L'ancien général de l'armée âgé de 74 ans devait initialement reprendre le travail hier lundi à Abuja, la capitale, mais la veille, son cabinet a annoncé qu'il prolongerait son séjour à Londres sur recommandation de ses médecins. En attendant les résultats d'une série d'examens médicaux effectués à l'occasion de ses congés. Aucun calendrier n'a été communiqué concernant le retour du président et aucun détail n'a été donné sur les examens qu'il doit subir. Le président Buhari est absent depuis le 19 janvier. Les Nigérians sont inquiets et demandent plus de transparence. La santé du chef de l'État est une question sensible au Nigeria. En 2010, le président Umaru Yar'Adua est décédé suite à des problèmes rénaux longtemps cachés au grand public. Merci d'écouter la VOA Afrique en direct de Washington. Au Cameroun, la reprise des cours se fait attendre dans les deux régions anglophones, en dépit du fait que les établissements d'enseignement devaient y rouvrir leurs portes depuis hier. Le gouvernement avait informé la population dès le week-end dernier sur les antennes de la Radio Nationale que le mot d'ordre de grève était levé. Mais plusieurs associations dans les deux régions anglophones continuent de promouvoir un mouvement de grève et un mouvement d'humeur. Ils disent que les deux régions anglophones ne sont pas traitées correctement par les autorités fédérales. On passe maintenant à l'actualité aux États-Unis. La Cour d'appel de San Francisco examine aujourd'hui la décision du juge James Robart de Seattle qui a suspendu le décret du président Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Une suspension pour plusieurs mois. L'administration Trump a fait appel et c'est un bras de fer juridique qui ne fait que commencer, selon les experts. Cet appel constitue la dernière étape possible avant un éventuel passage devant la Cour suprême à Washington. La volonté du président Donald Trump de fermer les frontières des États-Unis à d'éventuels terroristes, selon les mots du chef de l'exécutif américain, a engendré un casse-tête juridique. Jusqu'où vont les pouvoirs du président américain en matière de politique migratoire? En attendant, tous les regards sont braqués ce mardi sur la Cour d'appel de San Francisco, qui peut soit valider le décret Trump ou confirmer sa suspension. Cette Cour a fixé une audience par téléconférence. Chaque partie disposera de 30 minutes pour s'exprimer. Les opposants, dont plusieurs États, des juristes et des entreprises de la Silicon Valley, mettent en avant la Constitution américaine en affirmant que le texte viole l'interdiction de la discrimination religieuse, entre autres. En face, les avocats du ministère de la Justice ont interjeté appel dans les règles. L'administration Trump justifie le décret par les pouvoirs que la Constitution confère au président Trump, selon l'article 2, qui donne autorité au chef de l'exécutif pour conduire les affaires étrangères et diriger la politique d'immigration. Le président Trump a déjà qualifié James Robart de pseudo-juge et a qualifié son jugement de scandaleux. À noter aussi qu'en visite hier au siège en Floride du CENTCOM, le centre de commandement militaire américain, notamment pour le Moyen-Orient, le président Donald Trump a réitéré sa détermination de renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre le terrorisme. Le CENTCOM a mené près de 18 000 frappes en Syrie et en Irak depuis le début en août 2014, des opérations de la coalition internationale dirigée par les Américains contre le groupe État islamique. Et on revient au grand titre de l'actualité. Tout d'abord, la Somalie, où la capitale somalienne Mogadiscio est sous haute surveillance militaire ce mardi à la veille de l'élection présidentielle déjà maintes fois reportée. Les autorités souhaitent à tout prix éviter une nouvelle attaque des islamistes Shebab. Sécurité oblige, c'est dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus choisiront le chef de l'État parmi 22 candidats lors d'un scrutin à plusieurs tours qui marquera la fin d'un processus entaché de nombreuses accusations de corruption et trucage. Prévue en août, l'élection du président somalien a été plusieurs fois repoussée. Elle doit clore un processus électoral entamé en 2016. Et puis en Côte d'Ivoire, panique dans la ville d'Adiaké, située dans le sud-est du pays, près de la frontière ghanéenne, quand des militaires armés, membres des forces spéciales, ont tiré en l'air pendant des heures. Pour l'heure, aucune réaction du ministère ivoirien de la Défense sur le mouvement d'humeur de ces soldats mécontents. Et au Cameroun, la reprise des cours se fait timidement dans les deux régions anglophones, en dépit du fait que les établissements d'enseignement devaient y rouvrir leurs portes depuis hier. Le gouvernement avait informé la population dès le week-end dernier de la fin de la grève.